En cette semaine sainte, chers amis, je voudrais eh bien, prendre du temps avec vous au cours de ces catéchèses pour avoir une tonalité assez méditative finalement, parce que la Passion se médite, ce trop plein d'amour, le mystère du Christ, eh bien, se médite. C'est-à-dire que nous allons essayer de cueillir, de recueillir, de nous recueillir eh bien, tout au long de cette semaine sainte pour recevoir, prendre possession de notre salut. De toutes ces grâces de salut qui sont contenues dans toute la vie, le mystère, la personne de Jésus, ses actes, et en particulier tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il vit dans sa passion. Je voudrais aujourd'hui aller dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 12 avec vous. Nous sommes juste après les rameaux, et voilà qu'il y avait quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond. « Bien sûr, pas de souci. S'ils veulent venir me voir, qu'ils viennent. » C'est pas ça que Jésus répond. Voilà que des Grecs sont en train de regarder ce qui se passe. Ils sont attirés par ce Jésus. Ils veulent le voir, et voilà que Jésus leur répond, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Autrement dit, ce Fils de l'homme qui vient, nous allons le voir, livrer sa vie pour la multitude, pas que pour le peuple d'Israël, mais pour les Grecs aussi, pour les païens, pour chacun de nous, frères et sœurs. Pour saint Jean, la croix, c'est la gloire d'une manière indissoluble. On ne peut pas mettre la gloire juste à partir de la résurrection. Ce serait avoir une idée fausse, un regard faux sur la passion de Jésus. La passion de Jésus, c'est déjà la victoire. Déjà la gloire dans le sens profond de ce que c'est que la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Il n'y a pas de plus grande manifestation d'amour que de livrer, déposer sa vie pour ses amis. Et donc la gloire pour saint Jean, c'est Dieu qui aime jusqu'au bout d'un amour victorieux. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire la croix, c'est juste l'ignominie, et après, enfin, ouf, ça va mieux, c'est la gloire. Non. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Regardons bien la passion de Jésus dans la lumière de la victoire. C'est déjà la manifestation, la glorification. C'est l'heure de Jésus. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Pour nous, la gloire, c'est de la gloriole. Et donc, pour nous, la gloire, c'est juste quand ça va bien, quand ça brille, quand ça jette, quoi. Quand on a 1 million de vues sur YouTube, ah ouais, là, c'est la gloire, quoi. Pour Dieu, c'est différent. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant de Dieu. Et c'est précisément cette gloire de Dieu vivant en l'homme, la gloire de l'homme, c'est Dieu vivant en lui, dirait saint Irénée de Lyon. C'est parce que nous avons quitté la gloire, c'est parce que nous avons quitté la grâce qui est semence de gloire que le Christ va traverser ces abîmes. Ces abîmes de détresse, ces abîmes d'agonie, et juste après avoir dit « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme », Jésus continue, il dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Nous voyons la mort comme le terme, la fin de la vie. Or, pour un grain de blé, Eh bien, il faut qu'il meure pour porter du fruit, parce que s'il ne meurt pas, il ne va pas vivre sa transformation qui, d'étape en étape, va faire que ce petit grain de blé, eh bien, va pousser, va donner un épi, et puis beaucoup d'épis, et puis beaucoup de grains. Autrement dit, beaucoup de fécondité. La fécondité du grain de blé passe par sa mort. Qu'est-ce à dire ? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Et qui ait sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. C'est-à-dire, frères et sœurs, que nous avons le choix entre vivre sa vie, la vie qu'on aime, la vie qu'on veut, qui n'est pas forcément contre Dieu. Mais nous avons le choix aussi de vivre en ce monde en suivant le Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Servir le Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est précisément le suivre. Si quelqu'un me sert, être serviteur de Dieu, ce n'est pas faire des choses pour Dieu. On peut aller plus loin que le simple service de faire des choses pour Dieu. On peut suivre le Seigneur. Peut-être que le service, peut-être qu'être serviteur, ça va être une belle étape. Je me mets en mouvement, je me quitte moi-même pour faire des choses, non plus pour moi, mais pour Dieu. C'est une étape intéressante. Nous sortons de nous-mêmes, nous apprenons à quitter notre égoïsme pour nous mettre au service de quelqu'un d'autre et de quelqu'un qui est plus grand que nous et qui est infiniment bon, infiniment aimable, qui est le Tout-Puissant. C'est bien. Mais nous pouvons rester soit serviteurs toute notre vie en faisant des choses pour Dieu. Nous pouvons aller un peu plus loin. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors là, c'est tout autre. C'est faire ce fameux passage auquel était invité le jeune homme riche. Si tu veux servir le Seigneur, va, vends, quitte, quitte, et puis viens et suis-moi. Et là, on perd sa vie. Parce que tant que je fais les choses pour Dieu, je peux ne pas me quitter. Je peux ne pas donner ma vie. Je fais des choses, mais je ne donne pas ma vie. Je donne de mon temps, je donne de ma bonne volonté, je donne de mes compétences. Je donne des choses. Mais est-ce que je me donne ? Je peux faire des choses. Je peux donner de mon temps sans me donner. Ou en me donnant un peu, ou à moitié. Suivre le Seigneur, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera, c'est entrer dans la vie même de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va apprendre à mettre ses pas dans les pas de Jésus, mettre son cœur dans le cœur de Jésus, mettre son amour dans l'amour de Jésus, mettre ses yeux dans les yeux de Jésus, mettre ses mains dans les mains de Jésus. Oui. Vous comprenez bien, frères et sœurs, que c'est très différent. Parce qu'à ce moment-là, ça demande inexorablement la mort de nous-mêmes, de notre volonté propre. Pour vivre de cet échange admirable, pour passer de mes yeux à ceux de Jésus, pour passer de mes mains à ceux de Jésus, pour passer de mes pieds à ceux de Jésus, pour passer de mon cœur, de ma volonté au cœur du Christ, à la volonté du Christ, à sa volonté divine. Eh bien, ça demande à mourir à nous-mêmes, à renoncer à soi-même. Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à lui-même. Le serviteur fait ce qu'il a à faire. Il a une tâche à accomplir, il a un job, il a une mission. Ok. Le disciple, il entre dans la vie même du Christ, car le Christ est la vie, le chemin, la vérité et la vie. De sorte que pour suivre quelqu'un qui va beaucoup plus vite que nous, qui aime 15 millions de fois plus mieux que nous, hein, mieux que nous, eh bien, vous comprenez que soit on essaie de négocier, soit on essaie de tenir en disant un peu de toi, un peu de moi, 50-50. Non, c'est pas possible. Ça casse. À un moment donné, ça casse, ça se brise. Parce que soit le vieil homme vit, soit il est mort. Alors précisément, Jésus va rentrer dans sa passion pour crucifier le vieil homme. Pour que ce vieil homme qui est en nous ne puisse plus vivre. Pour qu'il puisse ne plus jamais négocier en permanence, entrer dans des consensus. Pour qu'il meure pour de bon, pour de vrai. Et qu'enfin, ce Christ, l'homme nouveau, car il n'y en a pas d'autre que le nouvel Adam, voici l'homme. Pour qu'enfin ce Christ puisse vivre en nous et à travers nous et prendre toute sa taille en nous et à travers nous. Pour cela, il faut accepter librement, consentir joyeusement à mourir à nous-mêmes. Frères et sœurs, entrez dans le mystère de la passion, de la croix de Jésus et de sa résurrection, sans mourir à nous-mêmes, c'est regarder un spectacle. C'est être spectateur d'un film sans s'engager. Oui, on mange des chips et on boit une boisson sucrée. Mais on est extérieur au film. On est extérieur plus précisément à la réalité. On est spectateur. Jésus ne veut pas que nous soyons spectateurs de sa passion, de sa vie. Il veut que nous entrions dans son cœur, dans sa passion, dans sa vie. Alors maintenant, mon âme est troublée, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifie ton nom? Père, glorifie ton nom. C'est-à-dire, comme dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'enfin, ces petites créatures chéries que nous aimons tant et qui vivent dans leur vie, dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans leurs convoitises, dans leurs péchés, dans les ténèbres, et bon, ils sont comme ils sont. Mais, Père, c'est pas ça que nous voulons pour eux. Nous voulons qu'ils vivent en fils bien-aimé, fille bien-aimée du Père, comme Jésus, avec Jésus, en Jésus. Alors oui, Père, glorifie ton nom. Il venait de commencer à dire, Jésus, voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Alors oui, la croix, c'est la glorification du Fils. La croix, c'est la glorification du nom du Père. Qui, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Il n'a pas épargné son propre fils. Le Père veut la croix, le mystère de la croix. Le Fils veut le mystère de la croix. L'Esprit Saint veut le mystère de la croix. Pourquoi ? parce que c'est le biais par lequel nous pouvons rentrer à la maison. Le Père veut tellement nous ramener chez lui, nous ramener en lui, qu'il veut la croix. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, même si on dit de temps en temps « Jésus a subi la croix », c'est une manière de dire, il faudrait préciser, Jésus a voulu la croix. Jésus a choisi la croix. Il n'a pas choisi la souffrance pour la souffrance. Il a choisi de traverser sa passion, de vivre. Il a choisi librement. Il a désiré d'un grand désir. Nous, on ne réalise pas à quel point le péché nous abîme. On vit avec depuis tout petit, si vous voulez. On s'est arrangé. Et on ne réalise pas à quel point ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous veut pas malheureux. Dieu ne nous veut pas dans les abîmes de détresse. Il ne nous veut tellement pas qu'il prend notre nature humaine pour visiter nos détresses, nos abîmes, pour nous en sortir. Il est le libérateur, il est le rédempteur, il est celui qui vient libérer les captifs, libérer les prisonniers que nous sommes, nous faire sortir des ténèbres pour nous transférer dans son admirable lumière. Il est ce bon berger qui vient chercher sa brebis perdue, emmêlée dans tous ses filets. Il est celui qui vient couper le filet de l'oiseleur qui nous avait emprisonnés. On avait été pris au piège. Et on était emmêlé dans le filet de l'oiseleur. Et on n'arrivait plus à s'en sortir. C'est Jésus qui vient nous libérer, nous délivrer. Plus que ça, il vient nous sauver. Il vient nous... Il y a toute une partie de libération. Mais en plus, une fois sorti du filet... On se met à nouveau à faire cuit-cuit. Et bien on se dit, c'est fou ça. Et en plus, il nous donne une nouvelle vie. Une vie nouvelle, sa vie. Alors voilà, oui, du ciel alors vint une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. C'est la voix du Père. C'est la gloire du Père, c'est la gloire du Fils. Et Jésus va manifester... précisément cet amour du Père pour le monde. La croix, c'est la manifestation de l'amour du Père pour le monde, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Et la croix, c'est la manifestation de l'amour du Fils pour le monde, qui a choisi de ne pas être épargné. Il a choisi de prendre tous les coups. Tous. Saint Paul dira même, jusqu'à dire, il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait péché. Il n'a pas péché, il est saint, immaculé, il ne peut pas pécher. Mais il a accepté d'entrer dans des abîmes. Pourquoi ? Parce que c'est là où nous étions. Nous n'avons pas conscience à quel point nous avions besoin d'être sauvés. Nous n'avons pas conscience à quel point nous avons été abîmés par le péché. Nous n'avons pas pris conscience... Parce que c'est au-delà de la petite conscience qu'on en a, de la conscience sensible, psychologique. Elle est profondeur en nous. Et au fond, nous ne nous connaissons pas si bien que ça. Dieu nous connaît. Et Dieu sait à quel point il fallait nous sauver. Et on ne connaissait pas le chemin pour rentrer à la maison. On avait perdu la clé. Et on n'avait pas la lumière ni la force pour rentrer, pour revenir. Alors il faut que ce bon berger fasse le voyage, descende du ciel, prenne notre nature et vive 24 heures sur 24 cette vie de fils bien-aimé du Père avec toute la surabondance, toute la plénitude, mais aussi avec la souffrance. Ces souffrances du Christ vont avoir valeur de rédemption. Parce que toutes les souffrances que Jésus va traverser, elles seront traversées dans l'amour, par amour, pour le Père et pour nous. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Jésus reprit « ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Ah, ben enfin! Enfin, il était temps. On n'en pouvait plus de ce pouvoir, de ce prince, de ce monde, et de ses manipulations, de ses mensonges, de ses manigances et de ses... tout ce que vous voulez. Alors, quelle bonne nouvelle! Jésus nous parle de sa passion, de sa croix, de sa résurrection, comme le jugement de ce monde et comme le fait de vaincre le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est maintenant le jugement de ce monde, où il faut libérer les hommes de toutes les influences démoniaques. Il y a plein de gens ici-bas qui se laissent influencer par le diable, qui ne savent même pas, qui se font influencer. Ils ne savent pas. Ils pensent des trucs, ils posent des choix, ils font des choses complètement sous l'influence du diable. Ils s'en retrouvent très malheureux, et comme ils sont très malheureux, ils vont compenser leurs problèmes, ils vont s'enraciner dans le malheur. Et plein de gens ne savent pas du tout qu'ils sont sous influence. Alors Jésus vient détruire les œuvres du diable et je peux vous garantir que nous allons voir des choses étonnantes. Des gens qui vont se réveiller comme des gens exorcisés, libérés, les petits démons étant partis dans les ports. Et puis l'autre là qui vociférait, qui hurlait, il est tout calme, il est tout normal, comment ça se fait? On ne l'a jamais connu comme ça. Ben oui. Il va falloir non seulement accepter d'être libéré, mais commencer à apprendre à vivre en libéré. Hein? Si le Christ vous a libéré, dit saint Paul, c'est pour que vous soyez vraiment libre. Donc ne reprenez pas vos esclavages d'avant. C'est fini ça. Parce que le Christ est advenu dans ta vie. La croix est donc, frères et sœurs, c'est le diable qui est terrassé. Il se fait avoir parce que pour lui, il est persuadé d'avoir gagné, vous comprenez? Ce Jésus, rappelez-vous, qu'il avait tenté 40 jours au désert. Il avait tenté sa chance devant cet homme qu'il pensait un homme, avec une certaine lumière, une certaine sainteté, donc un danger pour lui. Il avait tenté 3 fois, ça n'avait pas marché. Il s'est dit, je vais revenir. Et puis, il s'est fait dégommer un certain nombre de fois quand même pendant la vie publique de Jésus, il faut avouer. Il avait conquis les territoires, c'est-à-dire les espaces intérieurs de certaines personnes. Jésus passait, ah, ils n'étaient pas contents, les démons. Dès que Jésus passait, il hurlait. Il sortait parce que il fallait bien manifester la gloire de Dieu. Déjà dans la vie publique, pendant 3 ans, Jésus a fait énormément d'exorcismes. Il en a libéré plein. Non seulement guéri des malades, mais chassé des démons. Pourquoi? Mais il y en avait partout. Le prince de ce monde. Ce n'est pas le roi, c'est le prince. Autrement dit, ce n'est pas le roi, ce n'est pas lui qui règne. Il pense nous convaincre qu'il règne. Mais ce n'est pas le cas. Il nous met tellement devant les trucs qui vont pas qu'on se dit, bon, ben là, c'est fichu. Ben, c'est fichu, on a touché le fond, on va pas y arriver, on va pas s'en sortir. Regarde comment je suis vainqueur. Tout le temps, le diable nous dit, regarde, t'as vu, c'est moi qui ai gagné. Tu vas pas t'en sortir. Là, c'est impossible. Ce coup-là, je t'ai bien eu. C'est fichu pour toi. Non. Il est homicide et menteur dès l'origine. Il parle de son propre fond, c'est-à-dire menteur. Ce n'est pas lui qui gagne. Il a été terrassé. Même le regard sur la croix, pour beaucoup de gens, c'est une défaite. C'est la mort de quelqu'un qui a fait tant de bien pendant 3 ans. C'est dommage. Ah, il avait commencé quelque chose de bien, et puis il y a des gens qui y ont cru. Et puis il avait fait des trucs sympas, quelques guérisons, multiplication des pains, transformation de l'eau en vin. Il était chouette ce Jésus. Ah, mais bon. Ah, c'est vrai qu'il y avait des trucs bizarres. Et puis bon, ben voilà. Hein. Ça a mal fini, quoi. Pas du tout. Alors que le diable se réjouit parce qu'il pense avoir gagné, la réalité, c'est qu'il est vaincu, terrassé par la croix de Jésus. C'est-à-dire, la croix de Jésus annihile son pouvoir. La croix de Jésus fait fuir le démon. Il déteste la croix de Jésus, en fait. Il déteste non seulement le nom de Jésus, qui le fait fuir. Mais la croix de Jésus l'humilie, parce qu'elle est puissante, la croix de Jésus. Elle est sagesse de Dieu, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance de Dieu pour le croyant. Et donc, quand un croyant se met à croire que la croix de Jésus le sauve, que la croix de Jésus est son trône de gloire, son trophée, sa victoire, son lieu de vie, son lieu de victoire, voilà que ça gagne en lui et que les espaces conquis par le diable s'enfuient. Le diable, il s'enfuit, déteste la croix. Il déteste la croix. Parce que c'est une telle humiliation pour une créature d'être vaincue par ce biais-là. Une créature orgueilleuse, bien sûr. Alors c'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Autrement dit, l'espace occupé par le diable dans nos vies, c'est la croix de Jésus qui le chasse. On pourrait dire que Jésus dit maintenant ça suffit. T'arrêtes d'embêter les enfants de Dieu. C'est fini pour toi. Le croyez-vous, frères et sœurs ? Croyez-vous qu'en 2024, le diable est vaincu ? Vous allez me dire, oh là là, mais il agit beaucoup en ce monde. Il n'a que le pouvoir de sa chaîne. Et l'espace entre le piqué et lui, comme ça se réduit de jour en jour. Et plus ça se réduit, plus il aboie fort. Il rugit très très fort. Et comme il fait beaucoup de bruit, ça occupe un espace, le bruit, vous savez ? Le bruit médiatique, c'est un espace occupé. Par quoi ? Par des paroles de mort, par des paroles de désespérance, par des paroles qui injectent le découragement dans les âmes, qui injectent, le désespoir. Ça ne vient pas de Dieu. Entraîner les gens dans l'inquiétude, le désespoir, le découragement, ça vient de qui ? Une fois, et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nul ne va au Père sans passer par moi. qui regarde vers lui resplendira. Il y avait le serpent d'airain, et à chaque fois qu'on regardait le serpent d'airain, on était guéri. Maintenant, quand tu vas mal, quand tu es mordu par une petite morsure du serpent, ah, petite morsure de jalousie, petite morsure de, je sais pas quoi là, d'envie, une petite morsure de d'inquiétude, une petite morsure de d'énervement, de tout ce que tu veux, de colère. Tu te tournes vers qui ? Quand tu te fais mordre, est-ce que tu regardes vers Jésus ? C'est ce qui te permet d'échapper. Parce que le diable, non seulement il nous mord, mais il nous fait nous tourner les yeux vers notre misère pour qu'on ne voit que notre misère. En plus, tu es chrétien, en plus, tu as un carême, en plus, tu es dans un combat spirituel, et je vais te mettre tout le temps devant les yeux ta misère. Tu vas voir, ça va être une partie de plaisir, ton carême. Alors, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Le royaume de Dieu appartient aux violents, c'est-à-dire que quand tu regardes tes misères, quand tu expérimentes tes misères, est-ce que tu as le réflexe de regarder vers lui ? Là, il faut une très grande violence intérieure, un choix violent. Parce que notre misère et le regard sur notre misère peut nous tirer vers le bas. Et on peut s'enfoncer dans des sables mouvants. Qui regarde vers lui resplendira. Autrement dit, j'attirerai tous les hommes à moi lorsque je serai élevé de terre. Quand tu expérimentes ton péché, ta misère, tes morsures, tout ce qui te tire vers le bas, regarde, élève ton âme, élève ton regard vers celui qui est dressé sur le mât de la croix. Le nouveau serpent d'airain, c'est celui-là qui te guérit. Ils regarderont vers celui qui a été transpercé, qu'ils ont transpercé. Mais il faut que tu regardes Jésus. C'est très important que ton âme, que ton esprit se tourne vers lui tout le temps. Autrement dit, il faut que tu cèdes à l'attraction que le cœur du Christ exerce sur le tien. Parce que, élevé de terre, il t'attire. C'est la croix qui t'attire. Jésus crucifié t'attire. Reconnais-le. Reconnais qu'il t'appelle. Reconnais que tu n'es pas indifférent. Il faut que tu regardes un crucifix. Il faut que tu l'embrasses. Il faut que tu fréquentes le crucifix. Il faut que tu regardes le crucifié. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu fréquente le crucifié. Pourquoi ? Parce que le crucifié, c'est la manifestation de la gloire du Père et du Fils. La foule alors lui répondit : Nous avons appris que de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire il faut qu'il soit, que soit élevé le Fils de l'homme ? Qu'est-ce ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit : Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez. Tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se déroba à leur vue. Très important que Jésus se dérobe à notre vue. Pourquoi ? Pour qu'on puisse le suivre dans la foi. La foi, tout ce que nous vivons ici-bas dans la foi, nous prépare à la vision béatifique. Nous verrons Dieu face à face, c'est-à-dire à l'intérieur d'une connaissance aimante, avec une lumière de gloire, mais pour l'instant, nous le connaissons et nous l'aimons par le moyen de la foi, dans la foi. Il faut donc qu'il s'éloigne un peu. Et cet éloignement, c'est l'espace permis par le Seigneur, offert par le Seigneur, pour que nous puissions rejoindre par le cœur. Oui, le bien-aimé, bientôt vous ne me verrez plus, et puis vous me verrez, dira-t-il plus tard, et votre cœur se réjouira. Votre cœur se réjouira non pas parce que il va me voir d'un coup comme ça. Votre cœur se réjouira lorsqu'il me verra parce que vous aurez gardé cette relation avec moi dans la foi. Pourquoi, par exemple, dans un couple, quand pour des raisons par exemple professionnelles, il y a une séparation physique, géographique, dans le temps, de quelques semaines, de quelques mois, qu'est-ce qui fait que le jour des retrouvailles se soit rempli de joie? Eh bien, c'est parce que la présence a été gardée pendant le temps de l'absence. Les deux conjoints, par exemple, pour prendre l'exemple, ont gardé la présence de l'aimé. L'aimant a gardé l'aimé. Et réciproquement, ça se garde. Autrement dit, quand Jésus se dérobe à notre vue, c'est pour inscrire dans notre cœur cette attraction profonde vers lui, cet amour profond vécu dans la foi. Et c'est cette lumière de la foi dans laquelle il nous faut marcher. Marcher tant que vous avez la lumière de la foi. La foi est une lumière, frères et sœurs. La foi est une lumière. Vécue dans une certaine opacité, obscurité, mais la foi est une lumière. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, c'est-à-dire celui qui n'a pas la foi, ben, il s'appuie sur qui? Il ne croit pas qu'il est aimé, il ne croit pas qu'il est sauvé, il ne croit pas qu'il est aimé à la folie, ben, il s'appuie sur ce qu'il peut trouver en chemin. Donc, dans les ténèbres, c'est-à-dire, c'est pas lumineux, il fait comme il peut, bon. Mais le croyant a la lumière de la foi qui lui permet de marcher. La foi est une lumière qui fait marcher. Ce n'est pas une lumière qui nous fait demeurer statique, non. C'est une lumière qui met en mouvement. Parce que Jésus est tout le temps en mouvement. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Suivre Jésus dans la foi. Suivre Jésus par la foi, par la lumière de la foi. Autrement dit, frères et sœurs, nous voici invités en ce jour à tout vivre ici-bas sur cette terre avec la lumière de la foi. Croyons que nous avons la lumière de la foi. Croyons que le Seigneur nous donne sa lumière. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Dieu est lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Aujourd'hui, nous avons la lumière. Mais marchez tant que vous avez la lumière. Gardez la lumière, mais marchez avec cette lumière de la foi. Mettez-vous en mouvement. Posez des pas, posez des actes de foi précisément, intérieur, extérieur, mais marchez. Même si vous êtes physiquement bloqué sur une chaise roulante, dans un lit, il faut que votre cœur marche. Il faut que votre cœur vive dans la lumière que vous avez, que le Seigneur vous donne. Il ne retire pas sa lumière à ceux qui veulent marcher dans sa lumière. Non. Mais le Seigneur marche. Il se dérobe à notre vue. Pourquoi ? Pour qu'on continue à le suivre dans la lumière de la foi. Si nous quittons la foi, il n'y a plus rien. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pouvez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.